Donc, pratiquement aujourd'hui, c'est la dernière leçon de cette série qu'on a vue. Bon, pour passer en revue les leçons qui avaient été vues, notamment, on a vu l'origine de la famille et puis l'unité de couple. Donc, l'origine de la famille, on a dit l'origine de la famille, c'était Dieu qui était carrément à l'origine de la famille. Et puis, il était important, effectivement, que le couple, qui est pratiquement à l'origine de la famille, puisse vivre selon les directives que Dieu nous donne. Après ça, nous avions parlé du rôle des époux. Donc, au niveau du rôle des époux, l'homme avait son rôle et puis la femme avait son rôle. L'un des éléments essentiels sur lesquels on a établi, c'est que c'est des rôles qui sont complémentaires. Voilà, c'est des rôles qui sont complémentaires. En troisième point, nous avions parlé de l'ambiance familiale et puis de la communication. Donc, au-delà de tout cela, on cherche la famille, selon Dieu, devait être un havre de paix. Et la communication joue un rôle assez essentiel dans la famille. C'est-à-dire, quand on parlait de famille, on ne s'arrêtait pas seulement aux époux, c'est-à-dire conjoint, mari et femme, mais on l'étendait aux enfants aussi. Donc, il était important d'intégrer tout cela au niveau de la famille. Nous avions parlé de l'éducation des enfants et de l'instruction chrétienne des enfants, qui devait être fondée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, la société peut avoir ses normes, mais la norme essentielle pour l'éducation et l'instruction des enfants devait être fondée sur la parole. Nous avons parlé de la correction des enfants. Et au niveau de la correction des enfants, on a dit que c'était autorisé, mais dans la limite de ce que la parole de Dieu prescrit. Donc, on ne corrige pas parce qu'on est en colère, parce qu'on veut faire mal, parce qu'on veut punir, mais on corrige par amour. Donc, derrière la correction, en fait, derrière la correction, c'est l'amour qui vient pour que les comportements des enfants puissent être ajustés. Et nous avons parlé du service dans l'Église. Au niveau du service de l'Église, on a dit que tout chrétien avait un don, un appel particulier qui devait mettre au service du Seigneur. Mais en le faisant, c'est au service des autres qu'on le fait. Donc le service était un symbole d'amour aussi dans nos relations les uns envers les autres et dans notre relation aussi avec Dieu. Et nous avons parlé de la gestion des finances et comme de bons dispensateurs des biens que Dieu met à notre disposition, il fallait qu'on en tienne compte. Donc, il était important aussi, en tant que famille et en tant qu'enfant de Dieu, de faire attention à nos finances. Nous avions parlé de la sexualité. Et au niveau de la sexualité, l'orientation, pleinement de la sexualité, c'était, il fallait comprendre d'abord que la sexualité, c'était entre hommes et femmes. C'était orienté, je dirais, c'est dans la volonté de Dieu, mais cela devait se faire dans le cadre que Dieu prescrit, et non comme le monde le prescrit ou selon nos passions ou quoi que ce soit, mais ça devait être dans le cadre prescrit par Dieu. Et nous avions parlé la semaine dernière du rapport à la société, les amis incroyants, et aujourd'hui nous parlerons donc du témoignage chrétien. Donc concernant la leçon de la dernière fois, donc, le rappel que je pourrais faire, c'est-à-dire concernant le rapport à la société, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ensemble, les chrétiens forment une nouvelle société. Donc, c'est vrai qu'on vit dans le monde, je veux dire, on est influencé par tout ce qui se passe dans la société, mais on devait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et tous ensemble, nous formons une nouvelle société, cette société-là qui a pour Dieu, qui sert Jésus-Christ, qui sert l'Éternel des armées. La vérité de la parole de Dieu nous sanctifie, parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Nous, en tant que nouvelle société en Christ, c'est la parole de Dieu qui nous conduit. C'est vrai que dans la société, il peut y avoir des règles, des lois et tout ça là auxquelles on est appelé à nous conformer. Mais l'autorité suprême pour nous, c'est la parole de Dieu. Et puis le chrétien doit être différent du reste de la société dans beaucoup de domaines de sa vie. Donc, on a cité par exemple dans le mariage, dans le partenariat, dans notre organisation. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels le chrétien est différent de la société, pratiquement, je vais dire. Donc, dans beaucoup de domaines, on doit être différent parce qu'il y a des prescriptions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Or, nous, on va marcher selon les prescriptions qui sont à la gloire de Dieu. Je vais donner simplement un exemple. Pendant que la société est en train de promouvoir l'homosexualité, ce n'est pas parce que dans la société, elle s'est promue, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va aussi dire parce que c'est promu dans la société. Non, non, donc ça, c'est différent, par exemple. On a parlé des partenariats en affaires aussi, par exemple, qu'il fallait faire très attention. Et qu'en affaires, c'était préférable qu'entre chrétiens, on puisse s'associer entre chrétiens que de faire des mélanges chrétiens et non chrétiens, parce que des fois, il y a des décisions dans lesquelles ça peut créer beaucoup de divisions et de conflits parce qu'on n'avait pas les mêmes façons de voir ou d'apprécier. Comme autre point qu'on avait noté, nous avions parlé du choix de nos fréquentations et celle de nos enfants a un grand impact, c'est-à-dire notamment, c'est-à-dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme on le dit. Donc, c'était important de faire attention au choix de nos fréquentations. Le Saint-Esprit unit ceux qui aiment Dieu par des liens forts comme des liens familiaux. Donc, on est tous unis par l'Esprit de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, par des liens forts parce que on peut venir de divers horizons, de diverses familles, de divers milieux, mais l'Esprit de Dieu nous unit et il y a cette famille-là que nous bâtissons en Christ. En Christ, nous avons une espérance. Il est important de vivre selon cette espérance-là. Dans notre espérance, un jour, c'est de rencontrer le Seigneur. Un jour, c'est la résurrection. On avait cité plusieurs espérances en Christ qu'on pouvait avoir. Mais je vais dire le plus fort de cette expérience-là, c'est qu'on veut un jour rencontrer notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler du témoignage chrétien. Mais de quoi s'agit-il? En d'autres termes, on dirait ça mange quoi en hiver? Selon vous, quand on parle du témoignage chrétien, c'est quoi le témoignage? Okay. Se comporter, le frère dit, c'est, j'amplifie, hein. Le frère dit, c'est se comporter en chrétien en tout lieu et en toutes circonstances, se comporter en chrétien. Se comporter en chrétien, ça veut dire quoi? La parole de Dieu. Donc, marcher selon la parole de Dieu. Donc, le témoignage chrétien, c'est, selon le frère, j'essaie de résumer un peu, c'est marcher selon la parole de Dieu, partout où on est, en tout lieu et en toutes circonstances. Je vais ajouter pour dire, on n'est pas chrétien dimanche qu'on vient à l'église et puis quand on sort du lieu de culte, on est, c'est-à-dire le manteau de chrétien est déposé et puis on vit comme on veut, dimanche on remet notre manteau de chrétien, mais ça doit être en tout temps et en tout lieu. Okay, donc être témoin du Christ dans notre vie. Je ne sais pas s'il y a un juriste qui peut nous aider un peu. Être témoin, ça veut dire quoi? Généralement, dans la société, quand on parle de témoin, c'est quoi concrètement un témoin? Oui, Jean Abou. Donc, je résume. Donc, en plus de ce que le frère a dit, il ajoute là-dessus pour dire que, c'est-à-dire, marcher selon la parole de Dieu en tout lieu, en toutes circonstances, en plus de cela, il faut tenir compte de notre attitude, parce que notre attitude peut amener les gens à Christ. Et puis, pour revenir au témoin, donc, il a dit, le témoin, c'est celui qui va manifester les faits, les actions de Jésus. Mais souvent, on va parler de témoin oculaire. Le témoin oculaire, c'est celui qui a vu, n'est-ce pas? Des fois, on ne va pas voir, mais on va entendre. Donc, celui qui a entendu. Donc, le témoin, c'est celui qui est capable de verbaliser des faits qu'il aurait vu ou qu'il aurait entendu par rapport à une situation donnée. Voilà, donc être témoin de... Ici, j'ai dit un témoin. Un témoin, c'est celui qui atteste avoir vu, entendu ou connaître un fait. Souvent, dans nos habitudes ou dans nos discussions habituelles, on pourra dire, j'ai été témoin de ça. Mais c'est parce que des fois, on était présent ou on a vu ou on a entendu. Donc, on va dire, on a été témoin de cela. Et puis, le témoignage chrétien est le fait d'attester ce que Dieu a fait dans la vie du chrétien ou encore dans la vie de la communauté chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de la communauté chrétienne? Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies personnelles? Qu'on peut témoigner, qu'on peut verbaliser, qu'on peut adresser aux autres. Donc, on est témoin. Parfait. Donc, je voudrais qu'on suive à peu près, c'est ce plan qu'on va suivre dans notre démarche de ce matin. C'est-à-dire, le témoignage chrétien, donc la famille selon Dieu, c'est une identité qui transforme. Le témoignage chrétien, une mission confiée à la famille de Dieu. Et puis, une famille qui sait, en troisième, en quatrième point, les obstacles au témoignage chrétien. Et en cinquième point, ce serait donc une famille qui rayonne à la lumière du Christ. La famille, selon Dieu, une identité chrétienne. J'ai mis ces deux versets-là pour qu'on puisse saisir effectivement notre identité. Quand on parle d'identité ici, c'est, je dirais, peut-être notre personnalité ou bien nous-mêmes en tant que chrétiens, qui nous sommes. On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le deuxième verset, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, dans les études précédentes, on a vu effectivement qu'on formait une société à part, pas à part, là, je dirais, qu'on formait une famille, voilà. On formait une famille. Mais cette famille-là, elle a son origine. Donc, l'origine de cette famille, c'est que elle est indépendante de la volonté des hommes. C'est-à-dire, nous sommes des enfants d'adoption. Donc, c'est ça qui fait notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui fait notre identité. On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, du coup, on appartient à la famille de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité. Et nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même, par sa grâce, qui fait de nous ses enfants. Et dans le verset suivant, on parle d'enfants par adoption. Donc, Dieu nous adopte comme ses enfants pour faire partie de sa famille. Deuxième point, une identité reçue, non méritée. C'est-à-dire, on ne tapera pas dans nos poitrines pour dire, ah non, non, j'ai mérité d'être enfant de Dieu. J'ai mérité d'être chrétien, j'ai mérité. Non, non, mais c'est une grâce. C'est Dieu qui nous l'a accordé. Et une famille unie par l'amour du Père, c'est parce que Dieu nous a aimés, effectivement, qu'il a fait de nous ses enfants, et puis nous sommes unis. Et troisième point, l'Église comme maison de Dieu, 1 Timothée 3,15. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire pour nous. 1 Timothée 3,15. Donc, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église est la maison de Dieu. Or, l'Église, maison de Dieu, comme on le dit souvent, ce n'est pas les quatre murs, ce n'est pas le bâtiment, le beau bâtiment, ce n'est pas toutes les colonnes là qui sont l'Église. Mais l'Église, c'est chacun de nous qui formons l'Église. Donc, la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, c'est nous. C'est nous les humains, nous les hommes de l'Église, les femmes de l'Église, la communauté chrétienne qui formons la maison de Dieu. Amen. Et puis, une communauté où chacun a sa place, on en a parlé dans le service. C'est-à-dire, chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun est important dans cette communauté, dans cette famille de Dieu-là. Et une famille appelée à refléter le caractère de Dieu, comme on l'a dit tantôt dans le témoignage, et puis l'amour fraternel comme marque distinctive, et la sainteté et la vérité comme fondement du témoignage. Jean 13, versets 34 à 35, s'il vous plaît. Donc ici, dans cette famille-là, dans cette famille de Dieu que nous formons, le signe distinctif de notre famille chrétienne, c'est l'amour fraternel. C'est une marque. Et donc c'est cela que le Seigneur nous enseigne, c'est cela qu'il voudrait qu'on puisse manifester. Pourquoi? Afin, comme on l'a dit tantôt dans le témoignage, afin que l'on sache que nous sommes ses disciples, si nous nous aimons les uns les autres. Donc c'est l'extérieur qui va voir ce comportement-là, qui va ressentir cet amour les uns pour les autres, et à partir de là, ils sauront que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le témoignage chrétien est une mission confiée à la famille de Dieu. On dit, sous quelle forme le témoignage chrétien peut-il se manifester dans la vie du chrétien et de la communauté chrétienne? C'est-à-dire, sous quelle forme? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut manifester cela?
Je pense que si on peut juste regarder les mariages non chrétiens versus les mariages chrétiens, je pense que c'est plus de 60% des mariages qui sont dans les 5 premières années. Ou alors, ça ressemble à ça, les statistiques. Au bout de 10 ans, c'est 90% des mariages non chrétiens qui sont terminés. si on revient à ce qu'on disait tantôt, on a manqué dans le verset, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce commandement-là, c'est le fondement de la foi chrétienne. Dans un mariage chrétien, c'est le fondement aussi. Ça va nous amener à avoir 90% des mariages au bout de 10 ans sont encore vivants. C'est toute une différence dans notre témoignage dans le monde.
Amen. Donc, ça est le témoignage chrétien. Déjà, il donne un exemple ici dans les relations mari et femme. Mais aussi, on constate qu'aujourd'hui, les statistiques sont en train de démontrer que beaucoup de divorces, beaucoup de séparations dans les mariages aussi chrétiens. Voilà. Donc, ici, l'interpellation que le frère fait, effectivement, c'est-à-dire, si on s'appuie sur la parole de Dieu, en ce moment-là, on pourrait durer. Ou si c'est un couple, le couple pourrait durer dans ses relations et tout ça, parce qu'en s'appuyant sur le fait que c'est important de se fonder sous quelle forme, sous quelle autre forme. Ok, donc comme le frère dit, si je veux résumer, on va dire par notre comportement, notre façon d'être au fait. Ok, notre façon d'être, même si on ne parle pas, c'est-à-dire quand on nous voit, on doit savoir que, ou dans nos attitudes, on doit savoir effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe, on est différent. Est-ce qu'il vous arrive des fois de savoir qu'il y a des personnes qui autour de vous vont peut-être critiquer votre façon d'être, votre façon de vous comporter, mais quand ils ont un souci particulier, c'est toi qui vont chercher pour dire « Ah, est-ce que tu peux prier pour moi ? Est-ce que ça vous arrive hein? ?» Voilà, mais c'est parce que l'attitude et le comportement parlent. C'est-à-dire parce qu'ils se disent « Ah, mais lui, cette personne a une espérance. S'il y a un élément, une personne ou bien un Dieu que cette personne prie. » Donc, c'est vers vous que les personnes vont venir. Okay? Donc par l'attitude, les autres ont vu effectivement en lui qu'il y avait une différence ou une attitude différente. Donc, quand bien même que ce soit des personnes d'une autre religion, ben, on a accepté quand même qu'ils puissent prier à tous les repas qu'ils prient avant de commencer par manger. Donc, je veux dire, il y a souvent de petites actions comme ça, des fois qu'on va ignorer, mais que l'extérieur regarde. Et l'extérieur est prompt à juger. Il va nous arriver aussi des fois, on va nous interpeller pour nous dire, mais toi, tu te dis chrétien et puis tu te comportes comme ça. Mais pendant ce temps, la personne même, elle s'en fout. Hein? Mais c'est elle qui regarde parce qu'elle sait les principes bibliques. Elle croit et puis elle se dit, ah, mais lui, il croit en Dieu. Donc, les gens vont aller nous chercher par rapport à ça. Galates 5, 22. C'est-à-dire, en tant que chrétien, effectivement, on doit pouvoir manifester ces fruits de l'esprit là. Je ne sais pas si je l'ai noté dans la suite, peut-être on va pouvoir en lire. Ok, donc le témoignage par notre vie, ça c'est un peu ce qu'on a noté ici. Donc le témoignage visible, donc on a parlé de notre comportement, attitude et intégrité. Matthieu 5, quelqu'un pourrait prendre Matthieu 5, 14 à 16, une autre personne Galates 5, 22, 23, donc j'ai demandé à notre sœur de le prendre, et puis une autre personne pourra chercher aussi 1 Pierre 3, verset 15. Donc, Matthieu 5, 14 à 16. Donc, notre lumière doit briller parmi les hommes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire okay, on a allumé la lumière et puis on va la cacher pour ne pas qu'elle brille. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, nous, en tant que chrétiens, notre lumière doit pouvoir briller. Des fois, c'est difficile. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous accompagne et pour que notre lumière puisse briller. Les fruits de l'Esprit comme preuve vivante. Donc, ici, on voit c'est des attitudes pratiques, concrètes qu'on doit pouvoir manifester, qu'on doit pouvoir développer. Des fois, on peut être bon, mais on n'est pas patient. Ou on peut manifester un élément du fruit, je vais dire une tranche du fruit, si on va en orange là. Donc on va dire une tranche du fruit, mais l'autre tranche, on a la difficulté là-dessus. Mais ce n'est pas perdu. On peut aller encore au pied du Seigneur pour lui demander de travailler ce caractère-là. Amen. Donc, c'est tout ça là qu'on va regarder, ces choses qu'on va développer. Donc, ça, c'est le témoignage par notre vie. OK? Donc, comme le frère l'a dit, peut-être des fois, on ne va pas parler, mais à cause de notre vie, à cause de notre façon d'être, des personnes vont être curieuses pour savoir, mais qu'est-ce qu'il a et puis se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'il a et puis il y a de telles choses dans sa vie? Donc, le témoignage par notre vie. Et on peut témoigner aussi par nos paroles. Donc, notre comportement, tout ça là témoigne, mais nos paroles aussi témoignent. Donc, annoncer l'évangile avec douceur et respect. 1 Pierre 3, 3 à 15, s'il vous plaît. Donc, devant quiconque demande l'espérance qui est en nous, c'est-à-dire, on doit pouvoir l'annoncer avec respect et avec douceur. Et donc, raconter ce que Dieu a fait pour nous, un témoignage personnel aussi, c'est-à-dire nous permet de témoigner de l'amour, de la grâce de Dieu dans nos vies. Donc, nos témoignages personnels aussi sont importants. Ça peut être notre témoignage de conversion. Certains, quand tu écoutes leur témoignage de conversion, tu es tellement transformé, ça t'édifie tellement. Tu dis, mais comment le Seigneur peut appeler une personne de telle façon? Mais d'autres aussi, ça peut être simplement un témoignage de vie. Comment Dieu est intervenu dans la vie d'une personne particulière. Vous voyez, donc, le témoignage, notre témoignage est important. Nos témoignages personnels sont importants. C'est-à-dire, certains n'ont pas de témoignage de conversion comme nous autres. Glorieux, parce que c'est pas simplement le Seigneur nous a appelés tranquillement là. Mais peut-être dans d'autres domaines de vos vies, le Seigneur a accompli des choses extraordinaires qui peuvent édifier aussi un frère, qui peuvent édifier une sœur. Certains, c'est simplement quand ils racontent comment ils ont été gagnés au Seigneur, mais ceux qui les écoutent disent non, le Seigneur les appelle. Ça peut être des témoignages de comment Dieu a peut-être visité des personnes pour leur apporter la guérison, pour leur trouver du travail, pour ouvrir une porte, pour leur donner un enfant et tout cela, c'est édifiant. Donc, des fois, quand on n'a rien à dire, quand des personnes passent par des situations, mais le Seigneur peut nous mettre à cœur de pouvoir compter ce témoignage-là. Et en le comptant, on pense qu'on raconte simplement notre vie, mais quand tu finis, tu sens que quelque chose vient de se passer dans la vie de la personne. Parce que Dieu utilise ces choses pour travailler. Oui.
J'aimerais souligner au verset 16 dans la version du Sommeur.
Oui.
Avec humilité.
OK, dans 1 Pierre, hein?
Ouais.
C'est-à-dire douceur, respect avec humilité. Ça parle fort. Hein? Dans une situation catastrophique où on se dit, mais c'est impossible, mais c'est là que Dieu dit, c'est possible pour cette personne-là. Et donc, ne pouvant garder la personne, confesse que c'est Dieu qui a sauvé ma mère. Parce que quand on regarde tous ceux qui sont cartésiens, quand ils vont regarder toutes les formes réfléchies, ils disent non, c'est pas possible. On va nous dire que c'est alors que souvent les philosophes, dans toute leur richesse, ou les chercheurs, dans toute leur recherche, arrivent à un moment, ils vont être butés à une situation, ils vont pourtant dire et réellement Dieu existe. Parce qu'arrivé un moment, c'est Dieu qui parle, ce n'est plus l'intelligence humaine. Amen. Donc, le troisième point que j'ai noté, c'est témoigner ensemble. Donc, on a parlé de témoigner par notre comportement, témoigner par nos paroles. Et le troisième point, c'est témoigner ensemble. Jean 17, verset 21 nous dit, « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, le témoignage chrétien, on a parlé donc de l'unité comme message au monde. Donc, en tant que chrétien, si on est divisé, on ne porte pas donc un bon message au monde. C'est donc dans notre famille chrétienne, c'est dans la famille chrétienne que nous sommes, c'est important qu'on puisse bâtir sur l'unité. On puisse comprendre l'importance de l'unité, travailler à être unis, afin que le monde sache. Donc, l'extérieur, quand il nous regarde, il puisse dire, ah, mais ils sont unis. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils sont unis, sont un, et ils voudraient aussi que nous puissions être unis, nous aussi. Et l'Église comme corps missionnaire, où chacun contribue dans la grande commission à partir de 28, Matthieu 28, 16 à 20. Donc ici, c'est l'Église qui travaille maintenant. C'est-à-dire, c'est la famille chrétienne. Je rappelle encore que quand on parle d'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Hein? C'est nous, là. OK? Donc, c'est l'Église qui travaille. Et on nous dit l'Église comme corps missionnaire, chacun contribue effectivement pour annoncer l'Évangile. Donc, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Et je veux penser au beau projet que, ensemble, toute l'Église a engagé avec la nouvelle construction. Mais ça va prendre qu'on sorte ensemble, qu'on évangile ensemble, qu'on évangélise ensemble, qu'on annonce ensemble la parole du Seigneur. Et cela dans l'humilité, le respect, dans la douceur, mais dans l'unité. Et le troisième point, c'est une famille qui sert. Donc, la famille de Dieu, comme nous ici, c'est-à-dire le témoignage en action. C'est-à-dire, on a parlé par nos comportements, on a parlé par nos paroles, on a parlé effectivement ensemble, et puis ici maintenant par nos actions. Mais ça, la dernière fois, on avait fortement discuté de ça, quand on parlait du service dans l'Église. Donc, le service comme expression de l'amour familial. Donc, servir comme Jésus a servi, et puis le service humble et désintéressé comme signe authentique. Et ici, on avait noté comment Jésus a lavé les pieds de ses disciples, lui le maître qui s'est rendu serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Et quand il a fait, il a dit qu'il nous donnait cela comme exemple, afin que nous puissions nous servir les uns les autres. Et on a dit aussi que la manifestation de notre amour les uns pour les autres, c'est le service qu'on fait du moins les uns pour les autres. Et les dons au service du témoignage, c'est-à-dire chaque membre reçoit un don pour édifier, et la diversité des dons rend le témoignage plus complet. C'est-à-dire chacun de nous, et puis ça on ne cessera de le dire, c'est-à-dire chaque personne qui est assise ici ce matin, en toi, il y a un don particulier, il y a un appel particulier que le Seigneur a mis, et il voudrait que tu puisses le mettre au service de ton frère, de ta sœur, et vice-versa. Donc chacun met au service de l'autre le don que Dieu a mis en lui. Et le service envers le monde, c'est-à-dire la compassion envers les pauvres, les malades, les isolés. Donc une église qui agit devient une église visible. Ici, dans ce point, je l'avais noté, puis après je commençais par me poser des questions, à douter un peu de ce que j'avais écrit moi-même. Et puis je me demandais, parce que je faisais le rapprochement avec les services caritatifs qui se font pratiquement dans la société. Donc ici, si on y prend garde et qu'on s'arrête simplement à la compassion envers les pauvres, les malades, les isolés, c'est-à-dire il y a un élément important qu'on va manquer, c'est la parole de Dieu. Donc à cela, il faut associer la parole de Dieu. Amen. Sinon, on serait comme un service, qu'on a dans la société habituellement, ok? Et pour l'exemple pratique qu'on a ici, ça va être ici au niveau de l'église où on fait la distribution de nourriture dans la communauté ici. Mais on a un objectif qui accompagne aussi cette distribution-là. C'est que on ne veut pas seulement donner de la nourriture physique, mais aussi on veut donner de la nourriture spirituelle. Amen. C'est ça, donc. Tout à fait. Donc, c'est un élément important, effectivement, parce que la tendance serait d'être tournée vers ceux qui sont dans le besoin.
Seulement.
Or, effectivement, l'autre aspect, c'est que tout le monde a besoin de l'Évangile. Tout le monde a besoin de l'amour de Christ. Voilà. Donc, c'est important, effectivement, qu'on ne puisse pas manquer cela. Foi. Amen. Donc, c'est notre foi qu'on partage. C'est-à-dire, voilà, c'est notre foi. Ce n'est pas seulement... la nourriture qu'on va donner. Si on partage notre foi, elle ne sera pas sélective. Elle sera, je dirais, étendue pour tout le monde. Elle sera étendue pour tout le monde. Trump aura besoin de l'Évangile s'il n'a pas encore. En même temps, on a celui qui est le sans-abri aussi a besoin d'Évangile. D'amour, c'est ça. Donc, on voit que notre Évangile ne doit pas être un Évangile sélectif. Il doit être ouvert à tous. Amen. C'est-à-dire notre lumière, quand on a allumé notre lumière, il faut qu'elle brille pour tout le monde. Et non, on va la faire briller pour une certaine catégorie, mais on doit la faire briller pour tout le monde. Amen. Donc ça, c'est... OK, on ne va pas être trop long, c'est pas grave. Ça me donne encore de penser à l'origine même de l'évangile de prospérité. Quand on va parler de l'évangile de prospérité, c'est tous ces éléments-là qui vont entrer là-dedans, parce que ça va être sélectif, ça va être ciblé. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher des recherches financières et tout cela. Donc notre évangile, c'est pour tout le monde. C'est ça. Donc effectivement, il pourra avoir des barrières. C'est ça, les barrières vont exister, mais les barrières, on ne peut pas les lever. Hein. Les barrières vont exister, et puis on va les lever par la prière. C'est le Seigneur qui s'en occupe.
Voilà.
Il y a des opportunités, c'est ça. Voilà. Donc, il peut y avoir des barrières, et puis on prie pour que Dieu nous donne des opportunités, que le Seigneur nous dirige, pour qu'on puisse avoir des portes ouvertes pour que son évangile puisse être apporté. Des fois, tu es assis là. J'avais un ami qui lui aimait taquiner souvent. C'est-à-dire, il peut être là, et puis quand quelqu'un vient lui adresser la parole, il dit, mais il cherche sa conversion, on dit. Parce que pour lui, toute opportunité... c'est une occasion que tu lui donnes. Voilà, il dit non, non, non. J'ai rencontré quelqu'un qui cherchait sa conversion, on s'est parlé aujourd'hui. Donc ça arrive. Prions que Dieu nous donne donc des opportunités. Des fois, en milieu, effectivement, c'est difficile qu'on puisse parler parce qu'il y a beaucoup d'interdictions. Mais on prie que Dieu ouvre certaines portes, que Dieu ouvre les portes. Ça, c'est celle qui avait rejeté, dit, prie. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu crée des situations. Voilà. Il veut seulement qu'on puisse ouvrir la bouche, on puisse avoir la motivation et puis lui s'occupe du reste. Mais derrière ça, on prie pour que lui-même y fasse son travail. Et le quatrième point, c'est quels sont les obstacles au témoignage chrétien et comment y faire face? Donc, on a, je vais dire, déjà, il y a un premier obstacle dont a parlé notre sœur, certaines barrières qu'on peut retrouver. Et puis, donc, avec les exemples qui sont donnés, ça vient comme élément de solution. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles au témoignage chrétien? Est-ce que nous-mêmes, nos vies peuvent être des obstacles? Ça. Donc, le premier obstacle, l'un des obstacles, je vais dire, du témoignage chrétien, c'est notre vie personnelle. Voilà. C'est-à-dire, si notre vie personnelle est pire même que celui qui n'est pas chrétien, à ce moment-là, la question qu'on va se poser même d'abord, est-ce qu'on est, la personne est-elle chrétienne?
Oui. Je pense que pour le Québec, le plus grand obstacle, parce qu'on approche un Québécois pour nous parler du salut, les abus religieux, que ce soit les abus politiques, sexuels, les abus, les intrusions qu'il y a eu dans le passé, qui n'avaient pas sa place, la mauvaise perception face à l'Évangile, parce qu'on va toujours relier ça à cet abus-là. Puis, les Québécois se sentent délivrés aujourd'hui de cet abus-là. Ils ne veulent pas retourner à cet abus-là, puis ils croient que c'est là qu'on veut les amener.
C'est ça. Donc, ça vient appuyer, effectivement, ce que notre sœur a dit. C'est-à-dire, en tant que chrétien, notre témoignage personnel est important. Notre façon de vivre aussi interpelle. Donc, ça peut être un obstacle même au témoignage qu'on veut rendre. OK? Je sais pas. D'autres interventions? L'obstacle 1, j'ai mis le manque d'amour ou de pardon. La division les divisions, du moins, s'affaiblissent le témoignage. Donc, Anne-Céleste, tu prends 1 Corinthiens 1:10. Rachel, tu vas prendre Colossiens 3, verset 13. C'est bon. Jean-Joseph, tu prends 2 Timothée 1:7. Et puis Sébastien, Jean 15, verset 5. Donc, le premier obstacle, on nous parle du manque d'amour. On sait que le Seigneur nous a recommandé de nous aimer les uns les autres et qu'on soit unis. Donc, si entre nous-mêmes, au niveau de notre famille chrétienne, et je vais l'étendre un peu plus au niveau de notre famille nucléaire, c'est-à-dire père, mère et enfant, notre famille en tant que telle nucléaire chrétienne, si on ne s'aime pas, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, le message qu'on envoie à l'extérieur s'oppose à la parole de Dieu. Donc, il est important déjà qu'on commence avec notre famille nucléaire, là, qu'on puisse aimer les uns les autres. On va l'étendre à notre famille chrétienne, on puisse s'aimer les uns les autres. Et le monde comprendra effectivement que nous sommes ses disciples parce que nous aimons et nous sommes unis. C'est bon? 1 Corinthiens 1:10. Colossiens. Donc ça, le problème ou l'obstacle, c'est la division. Et comme solution, Colossiens 3, verset 13. Donc est-ce qu'on peut se pardonner les uns les autres? On peut se faire grâce les uns les autres? Des fois, on va se retrouver à des situations de... qui arrive entre nous, on est tellement abattu, je dirais découragé même, déçu même de nos attitudes les uns envers les autres. Et ça crée de la division, de la dissension. Mais le Seigneur nous exhorte à pouvoir nous faire grâce les uns les autres, à pouvoir nous pardonner puis à repartir, parce que c'est un témoignage, nous sommes une famille. Oui. Si quelqu'un ne veut pas faire grâce à son prochain, est-ce que la personne a compris la grâce?
Moi, je dirais... Elle peut l'avoir compris, mais elle ne la vit pas.
Elle peut l'avoir compris, mais elle ne la vit pas. OK, et puis, donc, je vois Mauricio qui fait ça, il est d'accord.
Dieu m'a fait grâce.
On fait grâce à quelqu'un d'autre. Mais un élément important que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que Dieu nous a fait grâce. Ça, c'est la vie pratique. Hein. Ce dont on parle là, c'est du concret. C'est-à-dire, dans le concret, tu as tellement d'amertume et de déception que des fois, il est tellement difficile de pardonner, parce que ça te prend du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec? On est tellement dans la souffrance même de ce qu'on a vécu qu'on préfère s'éloigner de la personne. comme il a dit. Non, la personne comprend. La personne même peut avoir bien compris, mais la personne a besoin du secours du Seigneur pour pouvoir avancer. Amen. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est la grâce de Dieu, c'est le secours de Dieu qui va nous aider à nous supporter les uns les autres. Donc c'est l'amour qui va le faire. Et moi, de façon concrète, c'est-à-dire une attitude qui va me donner la force de pouvoir supporter ou de pouvoir traverser quand je passe par ces moments difficiles ou par ces moments de cœur, c'est de prier pour la personne. Et quand on se met à prier pour la personne qui nous a blessés, pour la personne où on pense qu'on a fait du tort ou qui nous a fait du tort, au fur et à mesure qu'on continue de prier, l'Esprit de Dieu travaille dans notre cœur et nous donne la force de pouvoir supporter. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Quand je vais sentir que je suis blessé ou je vais commencer par prier pour la personne et demander au Seigneur, donne-moi la force de pouvoir traverser cette situation-là. Parce que c'est une épreuve pour moi, mais peut-être que la personne aussi, c'est difficile pour la personne. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Et de façon pratique et concrète, c'est ça. Parce que c'est bon? Ok, donc on doit pouvoir comprendre effectivement que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse accorder grâce. Et quand on le sait, en ce moment-là, si on a de la difficulté, on va au Seigneur, viens nous aider pour qu'on puisse passer cette épreuve-là. Amen. Donc, le principe, c'est qu'on puisse accorder grâce. Obstacle 2, c'est la peur ou la timidité. C'est-à-dire, Dieu nous donne un esprit de force et d'amour. 2 Timothée 1, verset 7. Et de sagesse que Dieu nous donne. Donc, la solution... Sébastien, Jean 15, verset 5. Donc ici, on voit ici que lorsqu'on a la peur, on a la timidité, en ce moment-là, on peut faire confiance à Dieu et puis, c'est-à-dire le témoignage va naître effectivement de la confiance qu'on a en lui et non de nos capacités. Parce que des fois, on va penser que c'est par notre capacité, par notre propre force qu'on est capable d'accomplir des choses, on est capable d'aller évangéliser, on est capable d'annoncer l'évangile et tout. Mais Dieu dit non, sans lui on ne peut rien faire. Et puis, c'est un verset qui va s'appliquer dans chaque domaine de notre vie spirituelle, que ce soit dans nos vies de prière, que ce soit dans nos relations les uns envers les autres. On a besoin que Dieu puisse nous assister et nous accompagner là-dessus. Amen. Et le troisième obstacle, ça c'est ce dont on a parlé, c'est l'incohérence de notre vie, l'incohérence de vie. Et puis donc l'important c'est d'avoir de l'intégrité et de la repentance. Donc un témoignage humble est plus crédible qu'un témoignage parfait. Un témoignage humble est plus crédible qu'un témoignage parfait. C'est-à-dire le témoignage parfait, c'est-à-dire ça sera de l'hypocrisie, de la caricature de ce qu'on est comme chrétien. Mais en réalité on ne le vit pas. Mais le témoignage humble, c'est le témoignage qui va reconnaître ses faiblesses, qui va s'appuyer sur le Seigneur et aller de l'avant. Et puis Dieu le transforme. Donc c'est ce témoignage-là qui va plus parler aux gens qu'un témoignage qu'on va façonner nous-mêmes.
La preuve, la Bible est remplie de ces témoignages-là.
Amen. La Bible est remplie de témoignages, de personnes que le Seigneur va utiliser dans leur faiblesse pour aller de l'avant, parce que c'est lui qui les transforme. 1 Jean 1, à partir du verset 5, et on va aller jusqu'au verset 10. Quelqu'un l'aurait trouvé? Et donc, 1 Jean 1, à partir du verset 5. Oui, vous pouvez le lire. 1 Jean. Oui.
Verset 5 à 10.
5 à 10.
Ah, c'est en haut.
Oui. Vous avez commencé par le 5. OK. Donc, ici, ça va être l'incohérence. C'est-à-dire, ici, ça met en opposition ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc, ça s'oppose effectivement à ce que Dieu veut. Donc, la solution à cela, c'est à partir du verset 7 que notre sœur avait commencé à lire. Vous pouvez le reprendre maintenant. 1 Jean. Donc, nous, on veut 1 Jean 1. Donc, ici, face à l'incohérence de notre vie, au lieu de rester dans cette incohérence-là, on a un recours. On a une solution que Dieu nous donne. On peut venir à lui. Et Le verset 1 du chapitre 2, il m'émerveille à chaque fois. Il dit, mes petits enfants, Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est l'objectif. C'est qu'on ne puisse pas pécher. Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, l'objectif, c'est qu'on ne pêche pas. Mais s'il arrive que quelqu'un a péché, qu'on ne demeure pas là-dedans, mais qu'on puisse savoir qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, on peut venir à ses pieds. On peut aller à lui afin que sa grâce nous accompagne et nous relève effectivement de notre chute pour qu'on puisse repartir à zéro. Amen. Donc, on peut repartir à zéro avec le Seigneur à tout moment. C'est-à-dire, quand on est tombé, on va se relever. Mais quand on patauge dedans et on prend plaisir, c'est là qu'on va commencer à dire, mais il y a une incohérence. Amen. Et la dernière partie, c'est que nous sommes une famille qui doit rayonner, dont la lumière doit rayonner. Ou je dirais, la lumière de Christ doit rayonner. C'est-à-dire, vive notre identité d'enfant de Dieu. Parce qu'on a dit que nous étions enfants de Dieu, non par la volonté du sang ou de la chair, mais par la volonté de Dieu. Donc, on est adopté par Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vive notre identité d'enfant de Dieu, parce que nous sommes maintenant une nouvelle créature. Témoignez ensemble dans l'unité et l'amour. Donc là, on nous parle de ce que nous devons être un. Et en étant un, effectivement, le monde saura effectivement que nous sommes enfants de Dieu. Servis avec joie pour rendre Christ visible. Philippiens 2, 14 à 15, ça on va le lire quand même. Philippiens 2, 14 à 15. Et puis, laissez Dieu fortifier nos cœurs et guider notre marche. Philippiens 2, 14 à 15. Donc, on doit pouvoir le faire sans murmure, sans hésitation. Hein? Parce que quand on fait les murmures, on crée des murs, comme on l'a dit autour de nous. Et Philippiens 4, verset 13 nous dit ici, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, allez au Seigneur afin que lui-même puisse nous fortifier, nous relever. Là où nous avons de la faiblesse, demandez à Dieu de venir à notre secours. Et pour finir, en terminant, demandons humblement à Dieu de nous accorder la force et la sagesse nécessaires pour témoigner de son amour dans chacune de nos actions. Et engageons-nous à faire rayonner sa bonté autour de nous, afin que le monde reconnaisse la lumière qui vient de lui. Marchons ensemble dans l'unité et l'amour fraternel pour devenir des porteurs authentiques de la parole de vie et des artisans de paix. Soyons celle lumière dans ce monde. Et donc le verset Matthieu 5, verset 13 qui dit « Vous êtes le sel et la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'une personne, deux personnes voudraient prier ?